Bonjour et bienvenue sur CFM pour cette nouvelle émission des Messagers du Cheval, une émission proposée par Virginie Boer et Michel Clément. Si je vous demande à quoi vous associez le nom de Kellogg, j'imagine que la grande majorité d'entre vous pense à ces petites pétales de maïs soufflées qui se mangent au petit déjeuner. Vous me demanderez alors quel est le rapport entre les cornflakes et cette émission. C'est ce que je vous propose de découvrir maintenant en partant aux États-Unis. Au début du XXe siècle, deux hommes d'affaires, le médecin nutritionniste John Harvey Kellogg et son frère Will Keefe, se sont lancés dans la fabrication d'aliments plus sains que ceux que l'on consommait à l'époque dans leur pays. En effet, le petit déjeuner traditionnel se composait d'œufs et de viande pour les plus riches, de porridge, de gruau et d'autres céréales bouillies pour les plus pauvres. Comme souvent, lorsqu'il s'agit d'inventions, le hasard va les amener à fabriquer des pétales de maïs, les fameux cornflakes qui vont les rendre célèbres. Si le nom de Kellogg est donc devenu une marque d'aliments bien connue, beaucoup de gens ignorent cependant que Will Keefe a été un des plus grands éleveurs de chevaux dans son pays. Il a grandi au Michigan avec ses 17 frères et sœurs, alors 6 sont issus du premier mariage de son père et 11, dont lui-même et John Harvey, de son deuxième mariage. Alors les enfants embêtaient régulièrement un vieux cheval arabe appartenant à la famille jusqu'à ce que l'un de leurs voisins les réprimande, leur disant que ce cheval appartenait à une race royale la plus importante que le monde ait jamais connue. Cette information impressionna suffisamment le jeune WK, on l'appelle souvent WK, hein, qui, fortune faite grâce au cornflakes, décida de se lancer dans l'élevage de chevaux arabes. En 1925, il achète à 153 hectares à Pomona, dans le comté de Los Angeles, en Californie, afin de créer son élevage, qui deviendra célèbre sous le nom de Kellogg Ranch. L'introduction des chevaux arabes en Amérique du Nord date de la fin du 19e siècle. Si le premier cheval arabe a foulé la terre américaine en 1725, ses descendants en race pure n'ont pas subsisté. La guerre de sécession, qui bouleversa l'histoire américaine entre 1861 et 1865, ayant décimé les populations de chevaux, il fallut attendre 1893 pour revoir des chevaux arabes à l'exposition universelle de Chicago. Les riches propriétaires de chevaux s'enflammèrent alors pour les chevaux arabes et commencèrent à en importer depuis l'Espagne, l'Égypte, la Pologne et la Turquie. En 1906, le caricaturiste politique Homer Davenport, soutenu par le président Theodore Roosevelt, lui-même un grand cavalier, traversa l'océan et se rendit au Moyen-Orient. Là, il put acheter des chevaux directement auprès des Bédouins. 27 chevaux furent donc embarqués à destination des États-Unis. Parmi eux, il y avait 8 juments arabes purs et 2 pouliches nés cette même année. 11 des chevaux acquis par Davenport furent achetés par l'homme d'affaires Chauncey Clark sur les conseils de Karl Raswan, un fin connaisseur en chevaux arabes qui avait vécu parmi les Bédouins. Lorsque ce dernier arriva aux États-Unis en 1921, on comptait moins de 500 chevaux arabes dans ce pays. Raswan allait conseiller de nombreux éleveurs dans son pays d'adoption. Chauncey Clark, lui, avait créé un haras de chevaux arabes à Indio en Californie en 1924. Parmi les chevaux sélectionnés par Raswan pour le haras se trouvaient l'étalon Deher, venu du désert, et son petit-fils l'étalon Jadan, dont nous reparlerons un peu plus tard. Malheureusement, la santé de Clark se détériora et il décida de vendre tous ses chevaux. Will Keefe Kellogg, qui avait rendu visite à Clark auparavant, décida de se porter acquéreur des 11 chevaux importés par Davenport. L'accord de vente entre Kellogg et Clark stipulait que Raswan accompagnerait les chevaux à Pomona. Ce dernier allait à son tour devenir le conseiller de Kellogg. Ensemble, ils se rendirent auprès de différents éleveurs aux États-Unis, où ils achetèrent différents étalons et juments issus des chevaux importés par Davenport. Ils allaient ainsi mettre en place les lignées fondatrices du haras. Pour compléter ses achats, Raswan se rendit en Angleterre en 1926, où il acheta 17 juments à Lady Wentworth, la fille de Lady Anne Blunt, dont nous vous avons parlé dans une précédente émission. Peu de temps après son retour d'Angleterre, l'association entre Raswan et Kellogg prit fin, mais le programme d'élevage avait été mis en place. Kellogg avait confié la construction de sa maison à l'architecte Myron Hunt, célèbre en Californie. Celui-ci construisit également les écuries dans un style hispano-mauresque. Et très vite, le ranch de William K. Kellogg attira les célébrités américaines et le tout Hollywood. Le célèbre aviateur Charles Lindbergh s'y rendit à bord de son avion Spirit of Saint Louis, avec lequel il avait relié Paris et New York en 1927, exploit qu'il était le premier à réaliser. Parmi les célébrités qui fréquentèrent le ranch, où les chevaux étaient régulièrement présentés au public, il y avait l'acteur le plus célèbre de l'époque, Rudolph Valentino. En 1926, celui-ci s'apprêtait à tourner Le Fils du Sheik, une suite du Sheik qui avait été un triomphe au box-office. Valentino avait dépensé beaucoup d'argent pour son costume et les accessoires qui allaient avec, et il voulait maintenant un cheval arabe digne d'un Sheik. Mais avant de découvrir qui est ce cheval, nous allons écouter la musique qui accompagnait la bande-annonce du film. Je vous rappelle qu'à l'époque, ils étaient muets. Un peu en arrière dans le temps, alors que nous sommes en pleine pré-production du Fils du Sheik. Le 15 avril, Rudolph Valentino envoya un télégramme au bureau de W.K. Kellogg, lui demandant la permission d'utiliser pendant 10 jours son étalon Jadan lors du tournage du film. Je le cite, « Grâce au magazine, à la presse et au film, cela vous fera beaucoup de publicité », soulignait l'acteur. « Si je demande Jadan en particulier, c'est parce qu'il est pour moi l'incarnation à tout point de vue du plus beau cheval arabe. » Cette proposition ne déplut pas à Kellogg et les deux hommes continuèrent à correspondre jusqu'à ce qu'ils puissent trouver un terrain d'entente. Valentino accepta de payer toutes les dépenses concernant le cheval, depuis son transport jusqu'à son entretien, y compris une police d'assurance de 25 000 $. Il devait également rendre le cheval à une date précise et faire apparaître le nom du ranch de Kellogg au générique. « Vous pouvez être assuré que je m'occuperai de Jadan avec encore plus de soin que s'il m'appartenait », écrivit Valentino. Le tournage débuta. Les scènes du désert furent filmées près de Yuma, en Arizona, et Carl Raswan doubla l'acteur lors des scènes d'action à cheval qui pouvaient s'avérer dangereuses, les compagnies d'assurance ne voulant pas prendre de risques avec leurs vedettes. Valentino garda Jadan plus longtemps que prévu, ce qui lui valut un télégramme un peu sec de Kellogg. Je le cite. « Lorsque je traite des affaires, je ne suis pas habitué à être traité de la sorte. Je vous demande de ramener Jadan au ranch immédiatement. J'attends tout de suite une réponse affirmative de votre part. » Valentino s'exécuta. Jadan fut ramené au ranch. Le fils du Sheik fut un triomphe qui rejaillit sur le cheval et Kellogg, en alla même jusqu'à acheter la selle utilisée par l'acteur dans le film. Quelques mois plus tard, Rudolf Valentino mourait à 31 ans d'une septicémie suite à une opération chirurgicale. Alors pour vous donner une idée de la popularité de l'acteur, on estime que 100 000 personnes se massèrent dans les rues de New York pour voir passer le cortège funéraire. Le jour même de l'annonce de sa mort, les fans de l'acteur en grand deuil se précipitèrent à Pomona pour voir celui que l'on désignait maintenant comme « le cheval de Valentino ». Jadan devint ainsi le cheval le plus célèbre des États-Unis. Les fans se pressaient à la porte de son box, puis admiraient, dans le plus grand des silences, les talons arabes qui leur étaient présentés harnachés avec la selle utilisée par Valentino. Les starlettes voulaient toutes être photographiées sur le dos de Jadan. Pour le ranch, cette célébrité se concrétisa également par de nombreuses demandes de saillie. Les réservations durent être enregistrées et tous les poulains de Jadan existant déjà furent vendus. Par ailleurs, le cheval dut être surveillé de très près, car lorsqu'il apparaissait en public, les adorateurs de Valentino essayaient d'arracher des crins de sa queue et de sa crinière, réclamaient ses fers et essayaient même de voler les pierres précieuses qui décoraient la selle et la bride de Jadan. Le fils du cheikh ne fut pas le seul film de l'étalon. Il participa à 5 autres films. Il eut même comme partenaire 2 grandes stars de l'époque, dans les années 30 donc, Marlène Dietrich dans L'Impératrice Rouge en 1934 et Claudette Colbert dans Sous deux drapeaux sorti en 1936. Il est intéressant de noter qu'au cours du tournage de ce film, le cavalier de Jadan devait faire une chute. La scène fut tournée sans répétition et lorsque son cavalier tomba, Jadan resta à ses côtés comme le fait toute bonne monture de guerrier bédouin. Ce trait particulier du cheval arabe est quelque chose dont Wilkif Kellogg fit lui-même l'expérience. Alors qu'il montait l'étalon Anthèse, sa selle qui avait été mal sanglée tourna et Kellogg se retrouva sous le ventre de son cheval, un pied pris dans l'étrier. L'étalon s'arrêta immédiatement et resta immobile jusqu'à ce que les compagnons de son cavalier puissent l'aider à dégager son pied de l'étrier. Wilkif lui en fut très reconnaissant. Anthèse, comme Jadan, font partie de ces chevaux qui furent les ambassadeurs du ranch Kellogg. Mais pour W.K. Kellogg, la célébrité autour de ses chevaux arabes n'était pas l'essentiel. Il tenait surtout à protéger ses lignées et son programme d'élevage. En 1932, il proposa sa propriété à l'État de Californie avec la condition expresse de préserver l'élevage des chevaux arabes et les 97 chevaux qui y vivaient afin de faire œuvre éducative et de montrer la polyvalence et la beauté de ses chevaux. Voilà pourquoi, tous les dimanches après-midi, les chevaux montraient ce dont ils étaient capables de faire, des pas de haute école, capables de sauter et de faire toutes sortes de performances que l'on peut attendre des chevaux. De 1943 à 1948, le ranch fut géré par le ministère de la guerre sous le nom de Pomona Quartermaster Depot, afin d'élever des chevaux pour la guerre. En 1946, il accueillit les chevaux arabes polonais que l'armée américaine avait voulu soustraire à l'avancée de l'armée rouge aux grandes dames des autorités polonaises qui considéraient ces saisies comme un vol de leurs trésors nationaux. Parmi les chevaux arabes polonais qui arrivèrent au ranch se trouvait le célèbre étalon Vitesse 2. En 1948, le ranch passa ensuite dans les mains du ministère de l'Agriculture qui entreprit de vendre les chevaux. Face aux protestations qui s'élevèrent de partout et aux pressions à Washington, le ministère dut mettre fin à la vente. En 1949, le ranch fut à nouveau cédé à l'État de Californie qui y installa le Polytechnic College San Luis Obispo qui devint des années plus tard l'université Cal Poly Pomona. Dans les années 1969, le W. Kellogg Arabian Horse Center, sous l'impulsion de Norman K. Dunn, le responsable du département équin, entreprit une nouvelle politique d'élevage en utilisant des étalons extérieurs. Depuis 1926, tous les premiers dimanches de chaque mois, d'octobre à mai, à 14h, les chevaux arabes sont présentés au public comme le souhaitait W.K. Kellogg. Environ 85 chevaux arabes vivent toujours sur le ranch, digne représentant d'un programme d'élevage de chevaux arabes qui est aujourd'hui le plus ancien des États-Unis. Le Kellogg Arabian Horse Center abrite également une des plus importantes bibliothèques dédiées au cheval arabe. Les écuries d'origine font partie maintenant du campus de l'université, mais l'élevage des chevaux arabes continue à prospérer sur les terres gérées par l'université dans le cadre de son programme équin. Voilà, notre émission touche à sa fin. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine, en attendant de vous retrouver dans 8 jours pour une nouvelle émission.